Les infos choisies
chaque vendredi de 12h30 à 13h
sur Radio Galère à Marseille
et Ayoli Radio à Avignon.
Des infos
qui nous touchent,
qui nous concernent,
qui nous ressemblent,
qui nous parlent,
qui nous donnent de la force,
qui nous font réagir.
C'est parti pour 30 minutes d'infos choisies. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, il est 12h31, c'est l'heure bien sûr des infos choisies sur Radio Galère et sur Radio Ayoli en Avignon. Aujourd'hui c'est peu de joie, mais on va commencer là tout de suite en disant il y a quand même une journée de mobilisation interprofessionnelle appelée par les syndicats pour la hausse des salaires. Donc oui, augmentons les salaires puisque l'inflation augmente. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est peu de mobilisation qu'il y a pour aujourd'hui dans les rues, car aussi peu d'informations qui s'est déroulée ces dernières semaines pour appeler à cette mobilisation. Peu de joie parce que les nationalismes grimpent et les conflits armés s'enlisent. Grand-papa Macron hier a parlé encore une fois à la télé. Il a appelé les Français à rester unis, volontaires, dans la lutte contre l'antisémitisme et pour la libération des otages. Mais il a pris soin d'éviter de commenter le siège de Gaza par l'armée israélienne. Et il n'annonce aucune initiative diplomatique concrète pour sortir de la guerre frontale et ouverte qui se met en place en Israël et Palestine depuis l'attaque du Hamas de samedi dernier. Tous les médias, les partis, les collectifs militants en parlent, commentent, font des pronostics. Les propos antisémites se banalisent dans nos rhétoriques d'extrême gauche pendant que les nationalistes de droite et d'extrême droite continuent leur discours islamophobe. L'État interdit les manifestations de soutien à la bande de Gaza cette semaine et ce sont une centaine d'actes antisémites qui sont dénombrés depuis samedi. Ouais, le contexte en France donne la dosée. Et sur le terrain, là-bas, en Israël-Palestine, cela devient invivable. L'attaque sans précédent du Hamas du samedi compte 1200 morts côté civil. Israéliens, 1537 Palestiniens ont été tués et 6612 autres blessés lors des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre où 6000 bombes ont été lancées depuis. L'armée israélienne prépare une attaque au sol. Je cite « Les terroristes du Hamas se cachent dans la ville de Gaza à l'intérieur de tunnels situés sous les maisons et à l'intérieur de bâtiments peuplés de civils gazaouis innocents. Civils de la ville de Gaza évacués vers le sud pour votre sécurité et celle de vos familles et éloignez-vous des territoires du Hamas qui vous utilisent comme bouclier humain. » L'ONU réclame que cet ordre soit annulé car il est impossible d'évacuer 1,1 million d'habitantes en 24 heures. Il y aurait tellement de choses à ajouter à dire des disparus en Israël, le manque de médicaments et d'électricité à Gaza. C'est la guerre et personne ne peut s'en réjouir.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
infos 30. Choisies, vendredi, midi 30.
Aux infos choisies, on propose, on tente en tout cas de proposer d'autres axes que la presse mainstream, de diffuser des voix, propos et articles moins médiatisés. Je vais vous lire des extraits d'un communiqué de juives et juifs révolutionnaires paru sur leur blog de Mediapart le 10 octobre, qui s'intitule « Nous pleurons les victimes des massacres en Israël et en Palestine ». Vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le club de Mediapart, mais également sur leur blog, leur site internet. Samedi 7 octobre, Nous sommes réveillés avec le choc de l'attaque menée par le Hamas. Des témoignages terrifiants pour certaines, la peur pour nos proches là-bas et pour toutes, la peur pour les Juifs ici. Une partie des gauches politiques, syndicales, décoloniales et antiracistes a choisi le soutien aux tueurs antisémites, reprenant parfois mot pour mot la communication du Hamas. Nous sommes furieux, furieuses contre celles et ceux qui se réjouissent ici du sang versé par le Hamas. Furieuses de constater le résultat de décennies de déshumanisation des vies israéliennes. Nous sommes hallucinés de constater le peu de cas qu'ils et elles font des vies palestiniennes puisque ces soutiens du Hamas ne semblent pas comprendre les répercussions qui s'annoncent déjà sur la situation au Moyen-Orient. Le bilan actuel fait état de plus de 900 morts et 2616 blessés en Israël au cours de ces attaques, dont la grande majorité étaient et sont des civils désarmés. Nous voulons rappeler une chose, rien ne peut justifier l'exécution délibérée de civils, qu'ils soient israéliens, israéliennes ou palestiniens, palestiniennes. Rien. On ne peut pas apporter son soutien aux moyens de lutte que les palestiniennes ont choisis pour résister. Communiqué du NPA du 7 octobre, quand ces derniers sont des meurtres de masse, de civils, des enlèvements et des assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards. Encore moins lorsque ces meurtres sont mis en scène sous forme de spectacles glorieux de décapitation, d'exposition de cadavres, de sévices et d'humiliations infligées à des corps désincarnés. Ceci est le macabre résultat d'une opération indiscriminée sur des Juifs et toute personne se trouvant sur leur passage, ne visant aucune cible stratégique, militaire ou économique. Parmi les victimes, nous déplorons des jeunes partisans à une participant à une rêve partie, des militantes pour la paix, des anarchistes contre le mur, des travailleurs détachés thaïlandais et bien d'autres. Les réactions de soutien au Hamas sonnent comme une justification ignoble des crimes de guerre antisémites perpétrés sur des victimes dont le caractère civil est dénié tant par le Hamas que par ses relais dans une partie des gauches occidentales. Le déni du caractère civil des victimes est le pivot idéologique et argumentatif du Hamas qui considère l'ensemble des Juives israéliennes comme des colons et de ce fait comme cibles légitimes. Cette assimilation pernicieuse des Juifs aux Israéliens et aux colons rend chaque assassinat et chaque enlèvement acceptable. Cheikh Yassine, fondateur du Hamas, disait à ce propos « Tout Juif est une cible et peut être tué ». La logique exterminatrice menée par le Hamas a un seul objectif, la mise en fuite des Israéliennes. Le message du Hamas est clair, rentrez chez vous. Mais où est-ce chez eux ? Mais où est-ce chez eux supposé ? Il est pourtant clair que personne ne partira de cette partie du Moyen-Orient, même lorsqu'ils s'embrasent. Israéliennes et palestiniennes n'ont nulle part où partir. Cette violence, celle qu'une partie des gauches justifie, a des conséquences pour toutes les Juives de la diaspora. Depuis la seconde intifada de 2000, chaque épisode de tension au Moyen-Orient, là-bas, est suivi d'une importation d'hostilité identitaire ici et se traduit par une vague d'actes antisémites. Certaines renoncent avec déchirement à porter leurs signes religieux. Kippa, étoile de David et Mezouza à l'entrée de leur habitation. Déjà des dizaines d'actes antisémites ont été recensés depuis ce week-end, alors que sur les réseaux sociaux ou des posts glorifiant les massacres recueillent des centaines de milliers de likes, l'atmosphère est irrespirable. Tout antiraciste conséquent devrait s'en alarmer et se tenir aux côtés des Juifs et des Juives. On peut et on doit condamner la politique du gouvernement israélien et ses crimes envers les Palestiniennes sans faire l'apologie des crimes de guerre du Hamas. On peut dénoncer l'invisibilisation des souffrances palestiniennes sans effacer et nier celles des victimes civiles israéliennes. C'est possible. Et c'est la seule voie dans laquelle peut s'honorer la gauche. Nous saluons à ce titre la prise de position claire du député LFI Rodrigo Arenas. Toutes celles et ceux qui glorifient le Hamas sans s'intéresser aux infamies antisémites dont est faite leur charte, sans prendre en compte leurs méthodes criminelles, y compris à l'égard des populations palestiniennes sous leur contrôle, affirment une pseudo-radicalité politique plus qu'ils n'œuvrent à la lutte pour un monde débarrassé de toutes ces oppressions. Rappelons enfin que les règles internationales, comme la Convention de Genève, ne sont pas des caprices bourgeois, mais des avancées sociales majeures visant à protéger, en temps de guerre, celles et ceux qui en ont le plus besoin, civils et prisonniers-prisonnières, et dont il n'est absolument pas souhaitable de s'abstraire. Je coupe des passages. En Israël, vivent une majorité de personnes réfugiées ou issues de familles réfugiées, sionistes ou non. C'est la nécessité élémentaire d'habiter quelque part qui les a amenés là. Déshumaniser les Israéliennes n'est pas plus acceptable que déshumaniser les Palestiniennes. Derrière les morts, il y a des familles et des proches qui pleurent chaque jour. Et derrière les mots d'ordre et les slogans accrocheurs se trouvent des violences inouïes qui ne peuvent se comprendre que par l'écoute et l'humilité. Les traumatismes ne s'annulent pas, ils ne font que s'accumuler. Se réjouir ou justifier le massacre en cours à Gaza n'est pas acceptable et ne le sera jamais. Les bombardements israéliens sont en train de tout raser. Ne soyons pas aveugles, ce sont des piles de cadavres de Palestiniennes qui se trouvent dessous. Ce sont des milliers de Palestiniennes qui ont été tuées ces dernières années, parmi lesquelles de nombreux enfants et des civils qui ne méritaient pas non plus de mourir mais de vivre libres et en paix, loin de la guerre, des chars de l'armée israélienne comme des assassins du Hamas. Et trop souvent, leur mort n'a donné lieu en Europe qu'à du silence et de l'indifférence. Ce sont aujourd'hui 2 millions de Palestiniennes qui vivent dans des conditions inacceptables dans une ville, Gaza, qui n'est qu'une prison à ciel ouvert. Nous ne pouvons pas accepter leur déshumanisation non plus. La fuite en avant militariste et le maintien du statu quo colonial n'est pas une solution, mais une vision de cauchemar qui ne pourra mener qu'à un enfer, pire encore. Beaucoup de proches de victimes pleurent en ce moment. Des proches juifs, juives, des proches palestiniens, palestiniennes, des proches israéliens, israéliennes, et nous ne voyons pas ce qu'il y a à célébrer face à leur deuil. Une logique mortifère traverse l'ensemble du spectre politique, celle qui présente ces morts comme un mal nécessaire. Un vrai projet de gauche est de penser la désescalade et le droit à l'égalité pour tous ceux et celles qui habitent cette terre. A l'inverse, les extrêmes droites fascisantes espèrent une guerre de civilisation et se réjouissent des massacres en cours. Notre judéité et notre engagement à gauche nous poussent à célébrer la vie. Ce Shabbat, lors du Kiddush et à d'autres occasions, nous redirons le Chaim à la vie. Par nos émotions et réactions, aussi sincères et douloureuses soient-elles, nous devons prendre nos distances avec ce fantasme nihiliste du choc des civilisations. Ne confondons pas la pulsion de vie exprimée par celles et ceux qui, en Israël comme en Palestine, luttent pour la paix, la justice et la démocratie, avec les pulsions de mort désirées par le Hamas et l'extrême droite israélienne. Vous pouvez retrouver ce communiqué, ce texte sur le blog, le site internet de Juifs et Juives Révolutionnaires. On s'écoute une musique avant de continuer ces infos choisies. Agar Agar tout de suite sur Radio Galère.
Keep looking at the light, the only thing.
infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Et on continue sur la guerre en Israël et Palestine. Voilà également un article d'un journal israélien, Haaretz, que j'avais envie de vous lire, de Gideon Lévy, du 10 octobre, traduit par Alain Brossard. Les Israéliens paient le prix fort pour l'oppression des Palestiniens dans la bande de Gaza. Vous pouvez le retrouver sur le site ici-et-ailleurs.org. Derrière tout cela se cache l'arrogance israélienne, l'idée que nous pouvons faire ce que nous voulons, que nous ne paierons jamais le prix et que nous ne serons pas punis pour cela. Nous continuerons sans être dérangés. Nous arrêterons, tuerons, harcèlerons, déposséderons et protégerons les colons s'activant à leur pogrom. Nous visiterons le tombeau de Joseph, le tombeau d'Othniel et l'autel de Josué dans le territoire palestinien. Et bien sûr, le monde du temple, plus de 5000 juifs pour Soukho. Nous tirerons sur des gens innocents, leur réduirons les yeux en bouillie et leur écraserons le visage. Nous expulserons, confisquerons, volerons, arracherons les gens à leur lit, pratiqueront la purification ethnique et bien sûr continueront le siège incroyable de la bande de Gaza. Et tout ira bien. Nous construirons un terrifiant obstacle autour de Gaza, le mur souterrain, seul a coûté 3 milliards de shekels, 765 millions de dollars, et nous serons en sécurité. Nous compterons sur les génies de l'unité de cyber-renseignement, 8200 de l'armée, et sur les agents du service de sécurité Shin Bet qui savent tout. Ils nous avertiront à temps. Nous transférerons la moitié d'une armée de la frontière de Gaza à la frontière de Hawara en Cisjordanie uniquement pour protéger le député d'extrême droite Zvi Soukho et les colons. Et tout ira bien, à Hawara comme au passage d'Erez vers Gaza. Il s'avère que même l'obstacle le plus sophistiqué et le plus cher du monde peut être franchi avec un vieux bulldozer fumant lorsque la motivation est grande. Cette barrière arrogante peut être franchie à vélo et en mobylette malgré les milliards qui ont été investis et tous les experts célèbres et les entrepreneurs richissimes. Nous pensions que nous continuerons à descendre à Gaza, à accrocher quelques miettes sous forme de dizaines de milliers de permis de travail en Israël, toujours sous conditions de bonne conduite, tout en les gardant en prison. Nous ferons la paix avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et les Palestiniens seront oubliés jusqu'à ce qu'ils soient effacés, comme le souhaitent de nombreux Israéliens. Nous continuerons à détenir des milliers de prisonniers palestiniens, parfois sans jugement, la plupart d'entre eux étant des prisonniers politiques, et pas question de discuter de leur libération, même après des décennies de détention. Nous leur dirons que seule la force permettra à leurs prisonniers de trouver la liberté. Nous pensions que nous rejetterions avec arrogance toute tentative de solution diplomatique, simplement parce que nous ne voulons pas tout accepter de tout ça, et que tout continuerait ainsi pour toujours. Il a été prouvé une fois de plus que ce n'est pas ainsi que ça se passe. Quelques centaines de Palestiniens armés ont franchi la barrière et envahi Israël d'une manière qu'aucun Israélien n'aurait imaginé possible. Quelques centaines de personnes ont prouvé qu'il est impossible de maintenir 2 millions de personnes emprisonnées pour toujours sans payer un prix cruel. Tout comme le vieux bulldozer palestinien fumant a déchiré la barrière la plus intelligente du monde samedi, il a déchiré l'arrogance et l'autocomplaisance d'Israël. Et c'est ainsi qu'il a déchiré l'idée qu'il suffit d'attaquer occasionnellement Gaza avec des drones suicides et de les vendre à la moitié du monde pour assurer la sécurité. Samedi, Israël a vu des images qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des véhicules palestiniens patrouillant dans ces villes, des cyclistes entrant par des portes de Gaza. Ces images chapent cette arrogance. Les Palestiniens de Gaza ont décidé qu'ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour un moment de liberté. Y a-t-il de l'espoir dans tout ça? Non. Israël tira-t-il des leçons de cette expérience? Non. Samedi, on parlait déjà d'effacer des quartiers hantés de Gaza, d'occuper la bande de Gaza et de la punir, comme elle n'a jamais été punie auparavant. Mais Israël n'a pas cessé de punir Gaza depuis 1948, pas un instant. Après 75 ans de mauvais traitements, le pire scénario inimaginable l'attend à nouveau. Les menaces de raser Gaza ne démontrent qu'une chose, nous n'avons rien appris. L'arrogance persiste, même si Israël paie à nouveau un prix élevé. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou porte une très grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Il doit en payer le prix. Mais cela n'a pas commencé avec lui et cela ne s'arrêtera pas après son départ. Nous devons maintenant pleurer amèrement pour les victimes israéliennes. Mais nous devrons aussi pleurer pour Gaza. Gaza, dont la plupart des habitantes sont des réfugiés créés par Israël. Gaza qui n'a jamais connu un seul jour de liberté. Et maintenant, nous allons écouter une autre chanson. C'est le groupe iranien Mohajamin. C'est du rock garage des années 70, donc dans une période pré-révolutionnaire. Et oui, je vous accorde que la qualité audio de ce morceau est à revoir. Maintenant, nous allons parler de la fermeture du métro à Marseille, une fermeture nocturne. Et c'est une gestion méprisante des populations. Donc, je fais le récap. La semaine dernière, le journal Mars Actu révélait à la surprise générale l'intention de la RTM de fermer dès le 23 octobre les deux lignes du métro de Marseille les soirs de semaine, de lundi au jeudi à partir de 21h30. Et ce, pour une durée vraisemblable de 2 ans. C'est pas rien, c'est gros. Et personne n'avait prévenu personne à la place. Donc, il y aura un service de bus gratuit toutes les 10 minutes qui est envisagé. La justification affichée de ce projet, confirmée immédiatement par la majorité métropolitaine, serait l'automatisation des deux lignes dans le cadre du plan Marseille en grand. Mais à quelques jours de sa mise en œuvre programmée, ce projet n'avait été discuté ni avec la population, ni avec les représentants directs, ni avec la municipalité de Marseille. Encore une fois, on peut constater les relations délétères donc, entre la métropole tenue par Vassal, ouvertement à droite, et la municipalité de Marseille actuelle, d'hiver gauche. Sauf que c'est la population qui trinque, pas les politiques, et notamment toutes les personnes qui travaillent le soir et qui vont voir leur temps de trajet allongé, complexifié, ainsi que l'aggravation de la ségrégation sociale déjà tellement présente à Marseille entre les quartiers. Rappelons le contexte, Marseille est la deuxième ville et ne dispose déjà pas d'une offre de transport globale suffisante. Les services en soirée ont toujours été peu développés et c'est un choix politique. Il faut s'interroger sur la manière qu'est prise cette décision, dont l'opacité et l'absence totale de concertation en amont, qui témoignent d'un mépris pour les habitantes, qui sont les premières concernées. Il serait nécessaire qu'une concertation se mette en place, associant notamment la RTM, les syndicats, les citoyens, les élus et la municipalité de Marseille, afin de maintenir la continuité d'une offre de transport répondant aux besoins des Marseillais et des Marseillaises.
Oh!
Il est 12h56, c'est l'heure de l'agenda. Beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de concurrence ce soir. Donc il y a Cida Bento, qui est psychologue brésilienne, qui vient à Marseille à l'occasion du lancement de son livre « Le pacte de la blanchité ». Donc ça sera 18h30 au 1 rue Guy Môquet ce soir, dans le 1er arrondissement. Réfléchir à la blanchité, c'est cesser de considérer le groupe blanc comme le groupe universel. Et puis il sera aussi question des actions que Cida défend et qu'elle a contribué à mettre en place au Brésil. Elle nous racontera les défis et obstacles qu'il a fallu surmonter. La rencontre sera traduite simultanément en français. Elle est organisée en partenariat avec le collectif Das Rosas et la librairie Octo. Rencontre tout le week-end autour du bouquin révolutionnaire. L'atelier des passages vient présenter le bouquin révolutionnaire, récit pour une approche féministe de l'engagement, et propose des initiations à la récolte de récits de vie sur le thème de l'engagement du vendredi 13 au dimanche 15 octobre. Comment vos convictions, vos engagements révolutionnaires ont-ils modelé votre vie ? C'est avec cette question que s'ouvre la série d'entretiens qui comporte le recueil révolutionnaire « Récits pour une approche féministe de l'engagement » paru aux éditions du Commun en février 2022. Donc à travers cette initiation à la pratique du recueil de récits de vie, l'atelier des passages souhaite poursuivre et encourager la récolte de témoignages et faire advenir d'autres récits et pourquoi pas d'en faire toute une série. Alors, il y aura vendredi, ce soir à la librairie Transit, une rencontre lecture-discussion à 19h. Demain, samedi, de 14h à 17h, au comptoir de la Victorine, un atelier d'initiation à la récolte de récits. Et dimanche, 15 octobre, de 13h à 16h, ça sera à la base, aux 3 rue Pierre Roche, dans le 4e arrondissement. Ce soir, toujours à 19h, c'est 50 ans de lutte de l'immigration et des quartiers populaires au cinéma L'Alhambra, dans le 16e, donc à l'Estac, soirée témoignage-débat autour du film réalisé par l'agence Immédia. C'est une projection organisée par le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, Didac Ressources, l'APREM, Contact Gardanne, Massealea Vox et le FRAKI. Donc c'est autour des enjeux des crimes racistes perpétrés en 1973 et dans tout le contexte des années 70. C'est également l'histoire de 50 ans de mobilisation et d'action des immigrés, des jeunes des banlieues et de leurs alliés comme la grève contre le racisme de 73. Voilà, n'hésitez pas à y aller, 19h à l'Alhambra. Ce soir encore à 19h30, vraiment ce soir, il y a trop de choses qui se passent, de trop de belles choses. À Manifesten, donc 59 rue Thiers, c'est à table en solidarité pour le rachat du centre autogéré La DAR à Marseille, devenu vegan. Et demain, samedi 14 octobre à 19h au local de Solidaire, le syndicat Asso Solidaire propose une conférence gesticulée sur le thème de la souffrance au travail dans le secteur associatif par Nicolas Dubois. Salarié associatif depuis 10 ans, naviguant entre social et culturel, j'ai eu l'impression de m'épanouir au travail, d'avoir un sens, une utilité sociale. En 2022, je suis pour la première fois en arrêt maladie pour troubles psychologiques au travail. Dans cette conférence, je vous propose de m'accompagner sur ma réflexion sur le rapport au travail. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Et à qui il appartient ? Dimanche 15 octobre de 18h30 à 20h30 à Manifesten, SPAM anime un espace de permanence ouvert et accueillant chaque deux semaines, les premières et troisièmes dimanches du mois. SPAM organise des assemblées autour du soin psycho-émotionnel, de l'autodéfense et l'anti-répression dans nos luttes. Viens te poser, boire une tisane, consulter notre info-kiosque, partager des outils et ressources, cuisiner avec nous. partager un repas, discuter de soins anti-REP, de comment tu vas faire vivre le soin dans ton groupe, ta lutte ou de ce que tu vis. Et lundi à 18h30 à Manifesten, c'est la coordination des contre les JO de Marseille. À partir du lundi 6 octobre, puis à fréquence de 15 jours, rejoint la coordination contre les Jeux Olympiques, alors qu'une partie des épreuves se déroulera à Marseille à l'été 2024. Face aux saccages budgétaires, écologiques et sociaux promis par les JO 2024 à Marseille comme à Paris, ces réunions sont d'ores et déjà l'occasion de s'organiser des contre-JO du 17 au 19 novembre 2023. Ce week-end du 17-19 novembre est la première étape d'un relais de flammes, de mobilisation, d'action et de perturbation contre la tenue des JO à l'été 2024 dans notre ville. Voilà, il est 13h03, les infos choisies se terminent. On voit bien que c'est plus compliqué quand on est seul que quand on est plusieurs à vous proposer ce programme. Bientôt, vous allez retrouver l'agenda alternatif avec Méline qui arrive bientôt dans les studios. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. Bon courage dans ce climat nauséeux.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.